Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma et une demi-heure pour parler en partie du Festival de Cannes dont la 79e édition a débuté. Nous aurons l'occasion de parler du film français qui fait l'ouverture de ce Festival de Cannes. C'est La Vénus électrique de Pierre Salvadori et nous aurons aussi l'occasion de jouer à un blind test pour découvrir des Palme d'or du Festival de Cannes. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans notre émission. Mais toi, tu ne vas pas parler de film cannois du tout, Guillaume.
Non, je vous parle d'un film d'animation qui s'appelle Ciao, ou K.O., hein, si on lit littéralement sur l'affiche, et un documentaire sur les 50 ans, en gros, hein, d'Iron Maiden, qui s'appelle Burning Ambition.
Allez, cap sur Cannes.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
C'est la 79e édition du Festival de Cannes avec comme président du jury Park Chan-wook. Parmi les jurés, tu le sais Guillaume, il y a Demi Moore notamment, Chloé Zhao, il y a Paul Laverty, Diego Céspedes, il y en a plein que je ne connais pas, comme Ruth Negga par exemple, je ne vois pas qui c'est. Bon, peu importe.
Mais bon, Park Chan-wook, c'est un acteur du meilleur quand même, c'est un réalisateur exigeant, donc
oui.
On attend un beau palmarès.
Oui, mais parfois, les réalisateurs qu'on estime beaucoup font des choix assez inattendus. On se souvient de Cronenberg, hein, notamment, qui avait choisi le film de Bruno Dumont à la surprise générale.
C'est pas faux. Et qui aurait pu penser que Spielberg couronnerait le film de Kechiche, hein.
Oui, aussi.
C'était un choix étonnant.
Alors, il y aura des films qui sont plutôt attendus, notamment celui de Pedro Almodovar, hein, puisque le cinéaste espagnol, malgré tous les films qu'il a fait, n'a eu aucune Palme d'Or. Il y aura aussi Asghar Farhadi, le réalisateur iranien oscarisé pour Une séparation, qui fait partie des grands favoris de cette édition. Il y aura aussi le nouveau film de Pavel Pavlovski. C'est ce formidable réalisateur d'un film que j'avais vraiment énormément apprécié, c'était Cold War. Eh bien, il revient avec un nouveau drame historique très attendu par la critique, hein, le réalisateur polonais. Il y aura aussi le dernier film de Rodrigo Sorogoyen, ou Sorogoyen d'ailleurs.
C'est mon petit chouchou,
plutôt.
J'avoue, pour le coup.
Ah oui, ton petit chouchou. Eh bien, après Asbestas, il a fait un nouveau film qui est revendiqué comme plus intense et politique. Et puis, il y aura aussi Kore-eda, hein, le japonais qui a déjà été Palme d'Or avec Une affaire de famille il y a quelques années. Et puis, lui aussi qui fait son retour avec un drame familial. Et puis, il y a eu le repêchage du film de James Gray avec Paper Tiger. Et là aussi, c'est un film forcément attendu parce que ça fait partie des réalisateurs très appréciés, en tout cas en Europe.
James Gray, hein, oui. Une filmographie qui parle pour lui.
Et oui, effectivement. Voilà, donc ce 79e Festival de Cannes nous donne l'occasion de parler du film qui a fait l'ouverture. C'est celui de Pierre Salvadori, La Vénus électrique, à Paris. Dans les années 20, une foraine se fait passer pour un médium auprès d'un peintre endeuillé et voit peu à peu la supercherie lui échapper.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Tu me jugeras pas. Mais non, jamais. Depuis quelques temps, j'ouvre une médium.
Quelle belle idée pour le Festival de Cannes d'ouvrir sa 79e édition avec La Vénus électrique, dernier film de Pierre Salvadori, l'un des cinéastes les plus précieux quand il s'agit de construire une comédie. Pour ce 11e long métrage, il en revient finalement à un thème déjà abordé dans ses précédents films, le mensonge. Alors c'était dans le cas dans Comme elle respire, portrait d'une mythomane incarnée par Marie Trintignant, ou dans De vrais mensonges avec Audrey Tautou écrivant des lettres enflammées pour que sa mère retrouve l'amour. Le mensonge est un formidable moteur cinématographique, surtout lorsqu'il se joue aux dépens d'un personnage, car il crée un décalage dont le spectateur est évidemment complice. C'est précisément le principe de La Vénus électrique qui débute sur un quiproquo.
Comment s'appelait l'être cher?
Irène.
J'entends quelqu'un murmurer un prénom.
Quel prénom?
Antoine?
Hein ?
Nous sommes dans les années 1920. Antoine Pio Marmaille, peintre ayant sombré dans l'alcool après la mort de sa compagne, cherche à entrer en contact avec elle. Il se rend à la foire de Saint-Ouen pour consulter une médium. Il tombe alors sur Suzanne, Anaïs Desmoustiers, qui ne possède alors là aucun don, mais décide de jouer le rôle lorsqu'il lui tend 10 francs, une belle somme pour l'époque. Suzanne, elle vit, elle, des baisers électriques sur scène. Elle attend qu'un inconnu vienne l'embrasser avant qu'une décharge électrique envoyée depuis les coulisses ne traverse le couple improvisé. Suzanne n'en est donc pas à sa première imposture. Elle se fait passer donc pour médium afin d'empocher quelques billets et improvise des transes où elle fait parler la défunte. Armand, Gilles Lelouch, marchand d'art et ami du peintre, se montre alors d'abord furieux de ses séances occultes avant d'y voir un intérêt. Antoine cesse de boire et recommence à peindre. Il propose alors à la fausse médium de poursuivre les séances en échange d'un pourcentage sur les tableaux vendus. Il va même jusqu'à lui fournir anecdotes et détails afin de rendre les possessions vraiment crédibles. Tout le monde semble y trouver son compte. Où serait donc le mal ?
Qui êtes-vous pour abuser du malheur d'un veuf, pour profiter ainsi de sa fragilité ?
Tu es ma lumière dans les ténèbres.
Est-ce que tu m'as pardonné ?
Mm-hmm.
Redis-le, s'il te plaît.
Je t'ai pardonné, Antoine.
Vos séances avec M. Balestro, je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends.
Je vous croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps ?
Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand.
Le film de Salvadori prend une autre tournure lorsque Suzanne découvre les journaux intimes de la défunte, Irène, interprétée par Vima Laponce, flamboyante. À travers une série de flashbacks, le cinéaste fait surgir cette femme libre avant l'heure, fréquentant les jeunes artistes fauchés de son époque. Salvadori filme merveilleusement la rencontre entre Irène et Antoine, une scène qui commence sur un motif comique avant de glisser vers l'émotion. Et c'est là vraiment tout l'art, hein, utiliser la comédie pour éclairer des sujets plus profonds. Les deux récits s'enchassent alors. Alors d'un côté les séances de spiritisme entièrement truquées, de l'autre les véritables confidences d'Irène. Son histoire se dévoile peu à peu, presque comme une série, hein, par fragments, avec des cliffhangers, des surprises et du suspense.
Bonjour, je vous propose 100 francs par tableau achevé et 150 francs pour les grands formats.
Peins le monde pour moi.
Elle m'a demandé de peindre, c'est merveilleux ça. J'avais pas touché un pinceau depuis son décès. Ah Irène, si tu savais, ce lac... Je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler.
Hein ? Je te l'interdis, tu m'entends ?
La Vénus électrique entretient aussi un lien évident avec la fabrication du cinéma ou des images, hein, entre les procédés forains dont on aperçoit les ficelles et ces séances de médiums construites comme des scénarios, Armand soufflant à Suzanne les phrases destinées à émouvoir Antoine. Le film joue constamment avec l'idée de manipulation du spectateur. Antoine devient alors ce spectateur crédule auquel on raconte une histoire. Mais cette réflexion théorique, hein, n'empêche jamais le plaisir, hein, vraiment du récit. À mesure qu'elle fait réapparaître la défunte, Suzanne semble elle-même disparaître avant de renaître autrement en découvrant le désir. Le peintre manipulé n'y reste, lui, pas insensible. Ce bouleversement donne lieu à des scènes pleines de subtilité, de drôlerie. Car oui, la Vénus électrique est drôle, mais d'un humour délicat, jamais tonitruant. Le plaisir vient surtout de voir un univers proche du conte dévoiler ses artifices. Tous les personnages sont solidement écrits et interprétés. Pio Marmaille traverse avec finesse le chemin qui mène de la solitude à une forme de renaissance avant que l'imposture ne soit révélée. Quant à la conclusion, eh bien, elle ne laisse guère de doute. Hein. Pierre Salvadori signe ici un hommage au cinéma, à la fiction, à ses illusions, en choisissant pour décor le monde forain qui concurrence encore le 7e art dans les années 20. La Vénus électrique est un film drôle, précis, intelligent et également interprété, qui part d'un baiser truqué, électrifié pour nous conduire vers un vrai baiser de ceux qui vont jusqu'à réveiller les morts. Et puis si on écoutait Pierre Salvadori, présent à Cannes, nous parler de son film.
Le mensonge, c'est une arme absolue dans la comédie. L'ironie dramatique, au fond, c'est que quand un personnage ignore ce que les spectateurs
n'ignorent pas,
eh bien, je ne vais pas le formuler comme ça, mais ça crée une espèce d'ironie et de rapport fort, ce qu'on appelle une ironie dramatique. Hein. Le spectateur sait quelque chose qu'un des personnages ignore. Ça aspire très rapidement le spectateur dans le film parce qu'au fond, il a une forme d'avance sur les personnages. Et je trouve qu'il y a un truc très beau là-dedans, c'est que ça invite aussi le spectateur dans le film. Voilà. Et ça m'intéresse énormément d'avoir ce rapport presque intime avec le spectateur. Les films que j'aime, j'ai parfois le sentiment, les films que j'ai vraiment aimés, j'avais l'impression que le réalisateur me parlait à l'oreille, que j'avais un rapport intime avec le film.
Je connais sa vie, ses secrets. Je vous soufflerai des histoires.
Et le peintre, il est beau ?
Ah oui, il est beau.
J'étais obligé de faire un film d'époque parce que sinon le personnage de Pio aurait été trop crédule. Début du XXe siècle, on croit à l'au-delà, on croit à l'occulte. C'est faire même preuve d'une forme d'ouverture d'esprit. C'est vraiment la fin des religions et l'avènement de quelque chose d'un peu plus, une sorte de mystique et de logique. Où vont les âmes, etc. Comme c'est dit dans le film, certains intellectuels de l'époque, des ingénieurs, des gens qui étaient des esprits puissants, des érudits, croyaient en l'au-delà. Edison, il avait fabriqué une machine pour parler avec les morts. Donc tout ça, c'est intéressant parce que j'étais obligé de le faire à cette époque-là. J'ai essayé de le faire à la nôtre et ça faisait de Pio un Candide, trop longtemps. Alors il aurait fallu qu'il soit ivre-mort pendant tout le film et ça aurait été un peu monochrome. Donc, il n'aurait pas su le faire en plus. Alors l'époque, c'est quelque chose, ensuite, il faut réfléchir, mais j'ai plus pensé par défaut. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, il faut faire comme ça. Je me suis dit, ce qu'il faut éviter de faire. Je me suis dit, il faut éviter de filmer l'époque, il faut éviter de filmer les décors. Et d'emblée, j'ai dit au cadreur et au chef opérateur, il faudra toujours qu'il y ait une émotion forte, véhiculée par le comédien, entre le décor et la caméra.
Il m'embrassait, elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendait ses baisers. Et plus elle apparaît, moi il me voit.
Il a pris conscience qu'il vous embrassait, vous, et là, on a ressenti un mélange de stupeur et... de désir.
Ah oui ?
Et aussitôt de honte, attention.
Ah bon ?
Je demande aux acteurs de jouer le film et de pas jouer le rôle. C'est-à-dire de comprendre le ton du film, sa langue. Et on joue pas le deuil, on joue pas la surprise, ou on joue pas la tristesse de la même façon chez moi ou chez un autre cinéaste, chez moi ou chez Desplechin, ou chez moi. Ou... La vérité, elle appartient à un film et il faut qu'un acteur comprenne le ton de ce film et quelle est la vérité de ce film, quel est l'accent de ce film et jouer avec cet accent-là. Et les acteurs qui comprennent ça, d'emblée, quand ils le comprennent dès les premiers jours, je sais que ça va être merveilleux.
C'était Pierre Salvadori, présent à Cannes pour présenter en ouverture La Vénus électrique, film qui est maintenant sur de nombreux écrans dans le pays. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test autour des Palmes d'Or du Festival de Cannes. Alors, on aurait pu en chercher 79 au moins, puisqu'il y a eu 79 éditions du festival. Mais là, nous n'avons que 5 extraits à écouter. Voici le premier.
J'ai juste transposé ce que vous m'avez dit en dialogue direct.
Mais je n'ai pas dit ça dans cette langue.
Le plus important, là, c'est le niveau sonore. Alors, le français, c'est plus simple pour tout le monde.
Hélène, on peut lancer la musique ?
Ça s'est bien passé ?
Oui, rien de spécial.
Ça va être quoi la suite de l'après-midi ?
Je sais pas, je suis fatiguée, il faut que je travaille un peu, que je me repose.
Moi, tu veux en voir ce que je vais faire ?
J'imagine que tu vas continuer au grenier, non ?
Ok, vous coupez ?
On peut couper !
Alors ?
T'as entendu quelque chose ?
Ok, on va recommencer un cran plus fort.
Plus fort, mais je vais pas crier. J'ai jamais crié à ce moment-là.
Oui, mais là, le sens de la reconstitution, c'est de savoir quel niveau de voix est crédible.
Mais Vincent, j'ai jamais crié.
Écoutez, elle n'a pas parlé plus fort que ça, et surtout, son fils maintient que les voix étaient calmes.
Enfin, vous voyez que ça colle pas, là. La musique recouvre tout, donc...
Ma cliente n'a pas crié, elle ne criera pas. Voilà.
Extrait d'un film étonnant.
C'est Anatomie d'une chute de Justine Triet.
Eh oui, Palme d'Or 2023. Là, on écoutait l'extrait d'une reconstitution. C'est un film qui est vraiment fabuleux. Une écrivaine est accusée du meurtre de son mari après sa chute mystérieuse dans leur chalet. Le procès révèle les failles et les tensions du couple. Si vous ne l'avez toujours pas vu, essayez de le louer. Allez, nouvel extrait de ce blind test. On cherche une Palme d'Or à Cannes.
Voilà, c'est le docteur Vitali de Milan qui vous a recommandé. Non, franchement, je n'avais jamais entendu votre nom. Vous me semblez un peu jeune. Vous avez 4 ou 5 ans de moins que moi. À mon avis, les analystes de votre âge sont les pires de tous.
Ah oui? Pourquoi dites-vous cela?
Parce que vous êtes plus cynique. Vous faites ce métier comme si c'était un métier quelconque. Et puis en plus, vous êtes plus jeune que moi. Moins riche que moi. Et j'ignore si vous êtes plus intelligent que moi.
Il se peut en effet que je ne sois pas suffisamment intelligent pour vous, mais il n'est pas question de mettre en compétition notre intelligence, il s'agit de bien autre chose.
Et combien de temps dure la thérapie? Et qui décide d'y mettre fin? C'est vous ou moi?
Ça ne se décide pas. C'est quelque chose qu'on comprend en général, qu'on comprend ensemble.
J'avoue que vous m'impressionnez. Vous êtes si tranquille, vous êtes si serein.
Ah oui? Eh ben tant mieux, non? Tant mieux pour vous et pour moi.
Alors, ça n'a pas été trouvé dans les studios. Alors, bon, j'ai pris un extrait qui était
disponible. On a un doubleur de Nicolas Cage, d'ailleurs. Le doubleur français de Nicolas Cage.
Oui, mais c'est pour un film qui est italien. Qu'est-ce que je pourrais donner comme gros indice, ce réalisateur, une fois que Pulp Fiction a eu la palme, a expliqué que c'était...
C'est Nanny Moretti.
Voilà, c'est Nanny Moretti a expliqué.
La chambre du fils.
Oui, oui. Pour le Pulp Fiction, il a expliqué que voilà, ça ne méritait pas du tout une palme d'or, que c'était à peine du cinéma. Donc, La chambre du fils, en 2001, la mort accidentelle d'un adolescent bouleverse une famille unie. Chacun tente de survivre au deuil et à l'absence. Nouvel extrait, nous cherchons une palme d'or.
Je trouve ça vraiment dingue que ce soit toujours si difficile de parler de fric. C'est un sujet super délicat. Tu trouves pas?
Ouais, je trouve que ça a rien de sexy de parler d'argent.
D'accord. Mais d'après toi, c'est dû à quoi?
J'en sais rien, c'est pas sexy, c'est tout.
Tu crois pas que c'est parce que c'est lié à la définition des genres? Putain, le menu qu'ils t'ont donné tout à l'heure, il avait même pas de prix.
C'est pas juste, Carl. C'est pas rare que je paye.
Non, je parle pas de toi, là. Je parle des femmes, en général.
Je me considère comme quelqu'un de généreux, tous mes amis te le diront.
Oui, bien sûr, t'es généreuse, mais... Des fois, j'ai l'impression que toi et moi, en tant que couple, on joue des rôles. Je déteste. Ça me gonfle de jouer le mec. Et toi, tu joues la femme. Je veux qu'on soit meilleurs amis.
J'ai pas envie de coucher avec mon meilleur ami.
Non, c'est pas... Je crois que tu comprends pas ce que je dis. Il faut qu'on évite de tomber dans les rôles masculins, féminins, hyper stéréotypés, comme font plein de gens. Je veux qu'on soit égaux.
Et une séquence avec le bruit d'essuie-glace qui vient perturber un dialogue alors hyper important pour moi. C'est une séquence extrêmement importante du cinéma contemporain. Tu as trouvé?
Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais c'est parce que je suis sans filtre, comme Ruben Östlund, dont c'est le film.
Eh oui, qui a un autre titre à l'étranger, c'est Triangle of Sadness, et on apprend pourquoi, d'ailleurs, dans la scène d'ouverture. Une croisière de luxe vire au chaos après un naufrage, les rapports de pouvoir s'inversent sur une île déserte. C'est un film en trois parties, en fait. Hein. Palme d'or 2022 pour Ruben Östlund, qui est l'unique réalisateur avec ses trois films à avoir toujours remporté le plus grand prix à Cannes. Allez, nouvel extrait pour ce blind test. Nous cherchons une palme d'or.
De quel droit interférez-vous avec une décision de justice?
Et commencez d'abord par vous calmer.
Réponds à la question, de quel droit?
C'est à vous de répondre. Vous voulez nous mettre à dos tous les commerçants et les hommes d'affaires de la région avec de tels jugements?
Tu entraves le cours de la justice avec de tels actes, Eddie.
Vous n'avez qu'à ainsi me mettre en prison. Qui fera la guerre alors, vous?
Ce que M. Sweeney a fait à Mme Rafferty est inqualifiable. Vous ne pouvez pas le cautionner.
Vous avez raison, mais l'argent de cet homme nous permet d'acheter des armes. Que voulez-vous faire sans armes? Ce n'est pas ainsi qu'on mène une guerre. On ne se bat pas avec des discours.
Comment pourrons-nous garder la confiance du peuple si vous sapez les décisions de justice?
Nous garderons la confiance du peuple avec des armes à la main. Parce que nous avons des hommes aux quatre coins de cette ville qui la défendent en ce moment même. Et que nous avons prises aux Anglais par la force.
Et le tout premier jugement rendu par un tribunal indépendant, tu le bafoues en décidant d'aller régler ça au pub.
Trouvé.
C'est Le Vent se lève de Ken Loach.
Et oui, réalisateur habitué à la Palme d'Or. Celle-ci, c'était en 2006. Dans l'Irlande des années 20, deux frères rejoignent la lutte pour l'indépendance, mais la guerre civile finit par les opposer. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Mon Dieu, moi je pourrais t'en raconter des histoires.
Et ben, voilà ce qui importe. Nous vivons tous des histoires. Les espoirs et les rêves de l'homme du peuple sont aussi nobles que ceux d'un roi. C'est l'étoffe même de la vie. Pourquoi ne serait-ce pas l'étoffe du théâtre? J'aimerais qu'on m'explique pourquoi on fait comme si c'était si dur d'avaler une telle pilule. N'appelons pas ça le nouveau théâtre, Charlie. Appelons ça le vrai théâtre. Appelons ça notre théâtre.
En tout cas, t'as une vraie passion pour ton métier.
Ouais, je sais, je devrais pas monter sur mes grands chevaux. Mais pourquoi ne pas en profiter pour observer le monde? On se fout de la vie du centième comte de Bastrop et de Lady Higginbottom et du meurtrier de Nigel Grange Gibbons.
Bah, ces pièces me démangent le cul à moi.
C'est trouvé, peut-être.
Est-ce que c'est Shakespeare in Love?
Alors non, pas du tout. Non, c'est la Palme d'Or 1991 d'un duo de réalisateurs qui sont frères et qui sont américains. Et là, on entendait John Turturro et John Goodman.
Quelle honte, c'est oui, Barton
c'est
Fink.
C'est un mauvais doublage. Cohen, oui, oui, oui. Oui.
Ah, de ma part, parce que justement, je suis en train de me dire pendant que tu diffusais l'extrait que j'aime tellement les voix de cette époque. Donc autant leur rendre hommage. Merci, messieurs les doubleurs.
Un dramaturge new-yorkais part à Hollywood écrire un film de série B en panne d'inspiration. Il sombre peu à peu dans un univers inquiétant. Et là, il parlait à son voisin d'hôtel.
Et c'est difficile quand même, hein. Je tiens à le repréciser, ces blind tests, quand on est habitué à voir certains films
oui,
en VO.
Évidemment, et évidemment. Ouais. Mais on n'a pas le choix, parce que sinon, il faudrait faire ces blind tests qu'avec les anglophones. Et nous ne sommes pas tous anglophones en France, tu le sais bien.
Ouais, ouais.
Ainsi s'achève ce blind test consacré donc aux Palmes d'Or du Festival de Cannes, puisque la 79e édition vient de s'ouvrir. Des pubs de l'Est londonien aux plus grandes scènes du monde, un documentaire retrace 50 ans d'histoire du groupe Iron Maiden. Et même si, comme moi, vous n'écoutez jamais Iron Maiden, il faudra quand même écouter la chronique de Guillaume.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Et si le Number of the Beast, le nombre de la bête, n'était pas 666, mais 2026. Mais si, rappelez-vous, même si on n'a été que trois à aller le voir en salle, dont toi aussi, Vincent, 28 jours plus tard, le Temple des Morts sorti en janvier, voyait sa meilleure scène mettre en scène Ralph Fiennes à posséder, qui dansait sur The Number of the Beast d'Iron Maiden dans une séquence hallucinatoire. Alors l'énergie de l'acteur et du morceau rattrapait bien des tiédeurs, de la mise en scène assez peu inspirée de Nia DaCosta, et Alex Garland, le scénariste, rendait ainsi un hommage quasiment obligatoire à l'une des figures les plus célèbres et mythiques de la scène britannique de ces 50 dernières années. Et voilà que sort sur grand écran cette même année, donc un énorme documentaire tout entier consacré à la Vierge de Fer. Pas le premier, certes, mais l'un des plus ambitieux.
What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
Gods of metal.
We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans for the first gigs we did.
Whenever I see a Maiden shirt out in the wild.
Iron Maiden, Burning Ambition, c'est une plongée dans l'histoire de l'une des légendes les plus brillantes et indomptables de l'un des groupes de chefs de file de la New Wave of British Heavy Metal. Alors brillante car Iron Maiden est devenu un monument absolu, un groupe à la musique immortelle et aux paroles qui transportent dans des univers fantastiques dès les premiers vers. Indomptable car combien de groupes se sont remis d'un premier album au son révolutionnaire et dévastateur pour ensuite se séparer de son premier chanteur, Paul Di'Anno, et renaître instantanément en encore plus fort, plus grand, plus invincible. Et quel groupe recréa cette situation une autre fois dans son histoire pour revenir à sa formation la plus iconique et continuer à remplir les stades du monde entier. Iron Maiden, ce sont des ouvriers fans de foot qui vont partir à l'assaut du monde de la musique, avec un bassiste comme chef de file, alors que c'est souvent l'instrument que l'on perçoit le moins dans ce genre de groupe. Et pour mieux marquer cette différence, quoi de mieux que de prendre le nom d'un instrument de torture médiévale ?
Steve had this vision. If you interfered with that vision.
Hello there. That's right, it's Bruce.
Burning Ambition est relativement classique dans sa forme puisqu'il propose un voyage à travers toute l'histoire du groupe de 75 à nos jours, avec entretien de quasiment toutes les figures historiques ayant fait les grandes heures de la formation. Alors tout s'y délivre avec plaisir et sans phare les hauts, les bas, les refus de compromis et une cohérence artistique rare pour un groupe ayant traversé presque 5 décennies sans se corrompre dans les modes du moment. Les copains musiciens mais aussi les fans sont invités à parler et tous se rassemblent autour de l'idée maîtresse du groupe. L'identité, c'est le son. Et pour qui les a vus sur scène, comme c'est mon cas par deux fois, Burning Ambition est, s'il en est besoin, un parfait rappel du génie de Steve Harris et de ses copains, et invitera les novices et néophytes à prendre des places pour leur tournée actuelle, idéalement intitulée Run for Your Lives. Il n'y a pas la 3D de James Cameron pour son film sur Billie Eilish, mais il y a la légende musicale, et ça, ça n'a pas de prix.
Nous parlions de Iron Maiden Burning Ambition, un film documentaire qui est en salle depuis le 13 mai. Tout comme Chao, ça, c'est un film d'animation japonais dans un univers futuriste. Une rencontre improbable bouleverse le destin d'un jeune homme et d'une princesse venue du monde marin.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Alors, du Festival international du film d'animation d'Annecy de 2025, je pense que peu de spectateurs auraient misé sur Chao, face à des titres beaucoup plus attendus comme Amélie, la métaphysique des tubes, Arco ou encore Planète dont tu as parlé, Vincent. Le film de Yasuhiro Aoki, avec son esthétique et sa forme plus anarchique que celle de ses collègues, avait tout de l'outsider marginal, et ce même si la richesse de l'animation japonaise n'est vraiment plus à démontrer de nos jours. Et ça ne manque pas, parce que dès les premières minutes, Chao impose une personnalité extrêmement forte. Alors l'histoire prend place dans un Shanghai futuriste où humains et sirènes coexistent dans un étrange équilibre à mi-chemin entre le conte urbain et une espèce de fantaisie burlesque. Et si cette histoire est basée sur cette du conte de la petite sirène que vous connaissez tous, on va voir assez vite qu'il s'en éloigne. Alors Stéphane, modeste employé de bureau englué dans un quotidien parfaitement réglé, voit sa vie basculer lorsqu'il se retrouve fiancé malgré lui à Chao, princesse du royaume des sirènes. Ce point de départ assez absurde pourrait donner lieu à une simple comédie romantique décalée comme on en a vu quand même pas mal, y compris dans le monde de l'animation, mais ce film a choisi une voie beaucoup plus intéressante car je pense que le maître mot ici est instabilité. Ou comment derrière ce chaos apparent se dessine progressivement une réflexion plutôt solide sur l'altérité, la peur du changement et la manière dont l'amour vient parfois désorganiser des existences qui sont entièrement construites sur un contrôle permanent. Alors on reconnaît assez vite la patte, la signature visuelle du studio. Alors je crois que c'est 4 degrés Celsius, si je ne me trompe pas en français. Et comme souvent chez eux, les cadres, eux, ne sont jamais figés. Alors les lignes, ça vibre, les personnages, ça se déforme, les proportions, ça se change suivant les émotions ou les situations. Alors cet anarchisme informel, il obéit en réalité à une logique assez précise. C'est-à-dire que le corps devient ici le prolongement direct de l'état intérieur de ces personnages. Chaque silhouette possède son propre rythme, une énergie propre, accentuée par le fait que le film est majoritairement animé à la main, et ça se ressent constamment dans la texture des images qui ont l'air de toutes être atteintes de Parkinson. Et si l'animation ultra organique refuse ses contours trop nets, les décors, eux, ils sont débordants de détails et participent à une sensation d'immersion, ce qui est pratique pour une histoire de sirène, permanente dans un univers qui ne reproduit jamais deux fois le même tableau. Alors voilà, à ce stade, ce sont même plus les lois classiques de l'animation qui sont chamboulées, mais celle de la physique en général. Alors cette énergie, elle a un prix, bien évidemment, parce que c'est aussi, bien sûr, le principal défaut qu'on pourra trouver au film. Parce qu'un petit peu comme un poulet sans tête, il semble incapable de se concentrer pour suivre un semblant de ligne droite. Alors chaque scène apporte une nouvelle idée visuelle, un nouveau gag, une nouvelle rupture de ton. Mais bien que ça soit très, très, très intéressant et fascinant, le problème, c'est que ça finit par produire une fatigue. Alors, le récit avance à 1000 à l'heure et c'est souvent au détriment du développement de ses personnages. Certaines séquences sont à peine esquissées. Qui sait qu'elles se sont déjà faites bouffer par les idées de la suivante. Alors après, il faut accepter aussi de se laisser emporter par ce train fou, parce que c'est une partie intégrante de la narration et du projet en général. Le film ne s'appelle pas Chao, K.O. quelque part pour rien. Il y a beaucoup d'humour, forcément absurde, tout le temps physique à la manière de l'âge d'or du slapstick, et ça arrive malgré tout à être capable de passer de ce grotesque formel à une mélancolie existentialiste en un claquement de doigts. Alors sous la fureur, il y a des thèmes beaucoup plus sensibles qu'il n'y paraît, comme une certaine solitude propre à notre monde moderne, l'acceptation de l'autre ou encore la difficulté de sortir d'une vie entièrement dictée par des automatismes sociaux. Ciao! Et en bonne comédie slapstick, hein, bah, Chao hein, se termine dans un tourbillon, hein, où les animateurs bah, se lâchent les rênes hein, et se font plaisir dans une euphorie communicative bah, qui satisfera les clients de ce genre de spectacle et qui, je pense, achèvera tous ceux pour qui ça va trop vite. Hein. Alors, on peut pas vraiment dire que c'est un film totalement maîtrisé, hein, voire même parfois toujours cohérent, mais j'ai envie de dire c'est justement pour ça qu'on est venu le voir. Et il sait délivrer tout ça avec une liberté qui fait plaisir. Et une chose est sûre, il a une énergie qui, bah, à défaut de convaincre tout le monde, fera l'unanimité sur sa fraîcheur.
Mmh. C'est un film d'animation qui n'est pas forcément pour les enfants, on le répète, hein. C'est plutôt pour les adultes. Mmh. Ce film, Chao, en salle depuis le 13 mai.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Puisque le Festival de Cannes a débuté, eh bien nous avons préparé nos valises et nous allons y aller. Pour la prochaine émission, nous aurons l'occasion de parler des films que nous aurons vus. À la semaine prochaine.